Bienvenue sur Tech It Easy, le podcast de Cool IT, où nous décryptons des concepts IT, où l'informatique est déconstruite et les invités sont cool.
Houston, on a un problème.
Que la force soit avec toi.
Skiba, you move.
Choisis la pilule bleue.
À la mise en place du Digital Service Act et du Digital Market Act en 2022, les régulateurs européens déclaraient « ce qui est interdit dans la vie doit être interdit sur Internet », renforçant ainsi le contrôle des activités des fournisseurs de services digitaux. Mais qu'en est-il des internautes? Sont-ils suffisamment sensibilisés? Connaissent-ils leurs droits, leurs devoirs, les risques? Avec Sophie Comte, Jennifer Albaz et Clémence Retailleau, on va explorer ce sujet et on échangera sur la solution de l'éducation au numérique. Dérivée de l'éducation aux médias, l'éducation au numérique est devenue le nouvel angle d'attaque des professionnels de la tech, pour sensibiliser les internautes de tout âge à des usages plus éthiques et citoyens. Comment vous allez?
Très bien. Un peu chaud.
Un peu chaud.
Oui, hein. Il fait très chaud.
30 degrés, on n'a pas trop l'habitude, même s'il ne faut pas trop le dire du côté de Quimper, mais 30 degrés quand même c'est fort. Je vous propose d'ouvrir notre premier sujet avec notre première rubrique qui s'appelle la requête de tirage. Et dans cette rubrique, on va creuser donc qu'est-ce que l'éducation en numérique à travers vos différents professions et les sujets qui vous concernent, et notamment sur la question des médias, de la conformité et du territoire. Pour débuter sur cette requête de tirage, Sophie Comte, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quels sont pour toi les enjeux en termes d'éducation en numérique et ton rapport sur ce sujet?
Merci beaucoup pour cette invitation, je suis ravie d'être là. Donc moi c'est Sophie, je fais partie de l'équipe qui a créé Chute Explore, Chute Magazine avec Aurore et Mathéo. On a créé un magazine papier qui parle de numérique. On aime bien cette apparente contradiction de parler de numérique au format papier. Pour nous, ça a du sens, parce que justement, tout va très vite et qu'on ne prend pas le temps de... dès qu'on est sur Internet, voilà, on a de plus en plus de contenus qui sont très courts, qui nous invitent à scroller de l'un à l'autre. Le fameux zapping qui est devenu la norme un peu aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et donc, nous, on aime bien proposer une pause. C'est pour ça qu'on s'appelle Chute. On propose une pause dans cette effervescence, cette agitation numérique, pour prendre un peu de distance, prendre de la hauteur sur ces grands enjeux-là. Et donc on a d'abord commencé par, je raconte la petite histoire rapidement, mais on a commencé par un magazine papier Chute, qui est plutôt destiné aux adultes, un trimestriel qui est distribué en kiosque et librairie, et qui prend des grandes thématiques de société, par exemple la démocratie, la façon de nous informer. On a fait un numéro sur la ville de demain, on a fait un numéro sur les femmes et la tech. Voilà, on prend des grandes thématiques de société et on montre comment le numérique transforme ces champs-là de notre vie. Et puis, chemin faisant, nous-mêmes, on est parents d'enfants qui ont grandi, qui se retrouvent avec un téléphone dans la main, et on s'est dit, il y a un vrai sujet avec les jeunes quand même. Et nous, qui portons ces messages-là autour de la tech et du numérique, et en particulier d'un usage responsable, éthique, de tout ce qui est diversité aussi, qui est quelque chose qui manque beaucoup dans la tech aujourd'hui, on s'est dit, et si on adressait cette proposition éditoriale aussi aux jeunes? Donc l'éducation numérique, j'y arrive, elle est venue par là, parce qu'on a créé ce magazine ado qui s'appelle Chute Explore, qui est un magazine bimestriel pour le coup, donc qui paraît tous les deux mois, qui est beaucoup distribué, alors pour le coup, non pas en kiosque, parce qu'on s'est dit qu'on n'allait pas trouver les ados en kiosque, qui est distribué soit sur notre site internet, qu'on peut acheter sur notre site internet chute.media, ou bien beaucoup aussi directement dans les établissements scolaires. C'est beaucoup les professeurs documentalistes qui s'emparent de notre support. En vrai, c'est même un peu eux qui nous ont demandé, parce que les lycées commençaient à s'abonner à Chute Magazine. Et des lycées qui font aussi collège nous ont dit « mais vous n'avez rien pour plus jeunes, parce que Chute c'est bien, mais ça ne convient pas pour des jeunes ados ». Donc c'est aussi pour ça qu'on l'a créé. Et aujourd'hui, on est beaucoup distribué dans les collèges aussi. Et donc les professeurs s'en emparent pour l'utiliser comme ressource pour leurs cours d'éducation aux médias et à l'information. Et donc là, j'arrive à l'éducation numérique. C'est vrai qu'après, on a pris conscience de cette importance-là d'amener ce sujet aux plus jeunes, et pas seulement juste avec un média, mais aussi avec des actions de terrain, parce que voilà, le numérique arrive de plus en plus jeune aussi, de plus en plus tôt dans la vie des jeunes, que la moyenne d'âge pour le premier téléphone portable aujourd'hui, c'est 9 ans et 9 mois. Alors selon les études, ça peut aller plutôt à 11 ans, mais sinon c'est plutôt 9 ans. Voilà. Bon, en tout cas, clairement, il se passe quelque chose en 6e. Dès l'arrivée, l'entrée en 6e, il y a une... parce que c'est le début de l'autonomie, les parents peuvent facilement équiper leurs enfants d'un téléphone portable, et là arrive tout ce qui va après, WhatsApp, etc., enfin les réseaux sociaux. Donc voilà, peut-être que je vais un peu loin dans le...
Non, c'est très bien. L'idée, en plus, mais... quand tu dis la moyenne d'âge, c'est 9 ans, 9 ans et demi, donc on est d'accord que là, c'est même pas la 6e, c'est juste...
Non, c'est même plus tôt. C'est même... Alors Jennifer pourra aussi en parler très bien, parce qu'on a vu ça ensemble plusieurs fois, mais quand on a fait des ateliers ensemble, il y a des jeunes qui sont sur des réseaux sociaux en CM1, notamment sur X, là où on les attend pas forcément. Enfin, c'est assez surprenant, mais ouais, il y a de plus en plus tôt aussi. Et alors, il faut sortir un peu du cliché du digital native qui connaîtrait tout. Non, ils connaissent pas forcément, mais les réseaux sociaux, oui. Ils savent assez tôt comment y aller. Voilà.
Mmh. Oui, surtout la question du digital native, ça c'est un autre sujet, mais c'est un peu un mythe auprès des jeunes, comme quoi ils seraient plus à l'aise sur les réseaux, sur l'usage de l'informatique. Ce qui, nous, on l'a déjà rencontré au sein de l'agence, c'est. C'est pas forcément le cas. C'est pas parce qu'on est avec un téléphone dans la main qu'en fait on sait l'utiliser. Enfin, savoir utiliser un outil et après juste savoir utiliser quelques applications, c'est deux choses complètement différentes.
Exactement.
Ce qui m'amène du coup vers toi, Jennifer. Donc, Jennifer Elbatz, bienvenue. Est-ce que du coup tu peux également te présenter et présenter ton activité et également les enjeux. C'est quoi ton rapport aux enjeux de la formation et d'éducation au numérique?
Je suis chargée de mission éducation au numérique à la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et donc mon travail consiste aussi bien à déterminer les messages, donc à médiatiser la doctrine de la CNIL finalement, et choisir les médiums en fonction des publics cibles, que à mettre en place des partenariats avec des réseaux de médiation, des réseaux de diffusion en fait, de l'éducation au numérique. L'éducation au numérique à la CNIL, c'est un sujet qui occupe la CNIL presque depuis ses débuts. On a même eu un site CNIL Junior avec des contenus exprès pour les enfants. Ouais. En 2013, on a considéré qu'il était important, l'éducation au numérique, c'était un sujet de société dont... le politique aussi devait s'emparer, et donc en fait on a monté un collectif, le collectif EduCNUM, qui regroupe un certain nombre d'entités non-profit qui œuvrent à une éducation numérique à tous les âges de la vie, pour pouvoir présenter un dossier pour être grande cause nationale. Depuis presque toujours en fait on s'adresse à tous les publics, puisqu'on a des droits sur nos données personnelles à partir du moment où l'on est et pendant toute notre vie. Donc c'est important de comprendre ce dont il est question, de comprendre les droits que l'on a, comment les exercer, et de comprendre l'environnement numérique qui, effectivement, comme tu le disais, évolue sans cesse. Et ce qui sans cesse évolue également sont les interactions et les forces en puissance, en réalité. Et quand on est internaute, on ne s'en rend pas forcément compte. On ne s'en rend pas forcément compte quand on est adulte, et encore moins quand on est enfant, quand on n'a pas eu de moyens d'information là-dessus. Donc, en fait, l'information des publics, c'est un moyen de s'émanciper aussi, et d'adhérer de manière libre et consentie. C'est ça qui est important pour nous.
D'accord.
C'est de faire en sorte que les gens comprennent ce dont il est question. C'est un petit peu de matérialiser Internet, ce qui ne l'est pas, en fait... La carte Un océan des données permet aux enfants de comprendre que les données elles circulent pas magiquement en fait. Il y a bien des câbles souterrains, sous-marins, des satellites qui transmettent les informations, il y a une matérialité, il y a plein de choses que l'on ne nomme pas, comme les émotions, comme le rapport aux autres, enfin bref, donc on essaye de matérialiser un petit peu tous ces éléments.
D'accord, on reviendra sur cette question de la matérialisation, parce que je trouve le sujet extrêmement intéressant. Juste tout à l'heure, tu parlais de force en présence.
Tu parles quoi? C'est quand tu parles de force, c'est des forces dans cette terminologie étatique vis-à-vis des entreprises qui dirigent différentes applications. Qu'est-ce que
C'est une somme de tout cela. C'est-à-dire que quand on est internaute, quand on s'inscrit sur un service en ligne, est-ce que on sait bien avec qui on est en train de signer un contrat?
Oui.
Est-ce qu'on a bien compris les termes, les conditions générales d'utilisation? Les a-t-on lus? Les a-t-on compris? Est-ce qu'on adhère de manière libre et éclairée?
Clémence Retailleau.
Oui.
Est-ce que tu peux également te présenter et présenter ton activité et également ton rapport au sujet de l'éducation au numérique?
Oui, déjà merci beaucoup de m'accueillir sur ce podcast. Donc moi je m'appelle Clémence Retailleau, je travaille à la Technopole Quimper-Cornouailles. Donc je vais commencer par cette partie-là de mon activité. La Technopole, c'est donc une association. L'objectif, c'est d'accompagner l'innovation sur les territoires, donc le développement économique des territoires par le biais de l'innovation. Les technopoles, il y en a un peu partout. Et en Bretagne, les technopoles sont fédérées en réseau, le réseau des 7 technopoles de Bretagne. Et donc on travaille autour de l'innovation, soit pour des entreprises qui sont en création, donc la création de start-up, ou alors pour des plus grosses entreprises qui auraient des projets d'innovation, des projets R&D, etc. Donc ça, c'est la première partie. Et la seconde partie, ma mission, c'est donc chargée de mission French Tech Brest-Bretagne-Ouest. La technopole de Quimper, avec celle de Brest et celle de Lannion, porte la capitale French Tech Brest-Bretagne-Ouest. C'est long à dire, mais c'est bien le nom entier. Par le biais de ce projet-là, on anime la pointe bretonne autour des sujets de l'entrepreneuriat et plus globalement du numérique. Ces missions font que je suis en contact avec des publics très variés pour acculturer le territoire aux enjeux de l'entrepreneuriat et du numérique.
Et parmi les personnes, les entrepreneurs que vous rencontrez, parce que typiquement nous on est en Finistère, on sait que l'un des gros sujets en termes d'entrepreneuriat, de création, c'est beaucoup lié au maritime ou à l'agriculture. Par rapport aux entrepreneurs que tu rencontres, c'est principalement des personnes de ce secteur ou tu en as quand même qui viennent un petit peu du milieu du numérique?
Alors, on a, historiquement, à Quimper, c'est une technopole qui accompagne beaucoup de projets dans l'innovation maritime et agroalimentaire. Donc, c'est quand même assez présent. Mais depuis quelques temps, on a de plus en plus de projets autour du numérique. Des sujets très variés, avec des profils tech ou non, qui souhaitent mener des projets numériques. Donc oui, ça commence à arriver. Je pense que le positionnement d'une French Tech à la pointe bretonne permet aussi de faire parler de ces sujets de numérique. On a des programmes d'accompagnement à l'émergence de projets tech, donc ça permet aussi d'apporter du numérique dans les projets d'innovation à la pointe bretonne.
Donc des sujets qui commencent à se développer.
Oui, et même d'ailleurs dans l'innovation maritime et agroalimentaire, la verticale, elle est très présente, même dans des projets numériques.
C'est vrai qu'on en rencontre de plus en plus qui en fait développent des... souvent c'est des technologies, mais tu peux te dédier à ces secteurs.
Oui, c'est ça.
Sur des sujets de maintenance.
Oui, ça peut être de la maintenance. Là, avec l'IA, on a pas mal de choses pour, par exemple, dans les élevages agricoles, piloter les bâtiments, etc. Dans le maritime, j'ai pas forcément d'exemple en tête, mais on a plein de choses. Si, par exemple, des bouées connectées pour les ports de plaisance. On a aussi une solution qui fait de l'IA pour aider les ports de plaisance à mieux piloter la gestion de leurs espaces. Enfin, voilà. Même dans les verticales historiques du territoire, on retrouve du numérique.
On reviendra du coup sur la question de comment vous faites pour accompagner ces entrepreneurs qui parfois ont une idée qui est très du coup terrain, pas forcément sensibilisés aux enjeux du numérique, mais ils savent à peu près ce qu'ils veulent faire.
Ouais.
Comment vous pouvez les éduquer par rapport à ça?
Avec plaisir.
Je me retourne vers toi, Sophie. J'ai une première question un peu plus spécifique. Toi, du coup, par rapport à ton activité et notamment ce qu'on a pu organiser aujourd'hui donc avec des collégiens, avec des ateliers des ateliers du Chute Explore. Fen et Jody m'ont parlé de ces ateliers. Quand ils m'ont parlé en fait, de ces ateliers, elles me disaient que pour toi, c'est une évolution de l'éducation aux médias destinée aux ados.
Exactement.
Est-ce que tu peux m'en dire plus?
Tout à fait. On propose des ateliers donc, d'éducation au numérique. Mmh. Alors, ma définition à moi d'éducation au numérique, c'est de l'éducation aux médias et à l'information qui existe déjà, c'est-à-dire apprendre aux jeunes à s'informer en ligne, savoir déjouer des fake news, identifier des deepfakes, voilà. Mais ce sujet-là aujourd'hui, alors c'était déjà un sujet avant Internet, mais aujourd'hui il est encore plus présent, on le sait, de plus en plus, tout le temps. Et l'éducation au numérique englobe ça, ce champ-là de l'éducation aux médias et à l'information, mais élargit un peu plus le spectre avec des connaissances qu'on apporte sur, par exemple, le fonctionnement des algorithmes. C'est quoi l'économie de l'attention ? Pour nous, ça nous paraît hyper important d'apprendre aux jeunes ce que c'est que l'économie de l'attention. Mais c'est pas que ça, ça va être aussi les sensibiliser à l'impact des réseaux sociaux en termes de santé mentale. Ça va être aussi parler de compétences numériques qui peuvent être, enfin, de façon positive, là, pour le coup, un vrai atout pour son métier de demain. Enfin, on sait qu'aujourd'hui, il y a énormément de métiers qui se développent et que c'est très varié et qu'il y a une méconnaissance aussi de tous ces métiers dans le numérique. Et que ça peut être une compétence en plus à rajouter, mais peut-être mise au service d'une cause, etc. Enfin, on les sensibilise à la citoyenneté numérique. C'est aussi ça, l'éducation numérique, c'est comment, enfin, avoir des comportements bienveillants en ligne, comment exercer sa citoyenneté numérique. Ça existe vraiment, ça, je pense que tu peux en parler aussi encore mieux. Donc pour nous, l'éducation numérique, c'est tout ça. Et c'est ce qu'on propose avec nos ateliers exploration numérique qu'on a fait aujourd'hui chez vous. Et merci beaucoup de nous avoir accueillis. On a proposé en fait à des classes de collège, donc là c'était des sixièmes, de venir autour de grandes cartes qu'on a créées. Donc c'est des genres de hors-série de notre magazine ado qui sont des grandes cartes, des cartes imaginaires, mais mais ancrées dans le réel, évidemment. Et justement, donc une des cartes qu'on a faites est une carte qu'on a faite avec la CNIL, qui s'appelle « Un océan de données ». Mais on a aussi fait l'archipel de la tech. Donc là, on a plutôt des îlots, l'île du Kif, le territoire de la terre de la pardon, je cherche... la terre du recyclage. Bref, on aime bien, ça nous amuse beaucoup, nous, chez Chute, d'imaginer tous ces lieux. Je sais pas, il y a le tourbillon du cyberharcèlement. Il y a aussi des choses qui peuvent.
Passer beaucoup de temps à chercher les.
On a le Kraken dans la carte l'océan des données. Et donc on s'amuse comme ça par l'imaginaire. C'est juste un prétexte pour amener de la discussion. Les jeunes autour de ces sujets. Donc on leur propose de pointer ce qu'ils voient sur la carte, ce qui va attirer leur attention, et à partir de là on crée des échanges, et notamment avec l'une des cartes on leur propose ensuite de dessiner leur propre carte du numérique
sur la base de leur expérience.
Ils ont eu l'occasion de découvrir une carte, et notamment avec l'archipel de la tech par exemple, on leur dit maintenant dessine ta carte du numérique. Donc ils vont dessiner plusieurs îles plus ou moins grandes en fonction du temps passé. Donc il peut y avoir l'île de Pronote, il peut y avoir l'île du divertissement. Et puis après, on leur propose de rentrer un peu plus en profondeur. Qu'est-ce qu'il y a dans l'île du divertissement ? Ça leur permet de questionner leurs usages, d'amener encore une fois de la discussion sur ces sujets-là. Et ensuite, les élèves sont invités à présenter leur carte du numérique. Et ils repartent tous avec un exemplaire de la carte. On a aussi les routes du numérique. Une carte qu'on a faite avec le ministère de l'Éducation nationale, qui est plutôt autour de la citoyenneté numérique.
D'accord.
On a une carte sur les émotions, qu'on n'a pas faite aujourd'hui, mais qu'on propose aussi parfois, qu'on a faite avec la collectivité européenne d'Alsace. Et là, c'est aussi ce que tu évoquais tout à l'heure, la place des émotions en ligne. Les algorithmes jouent aussi avec nos émotions, et c'est important de les verbaliser. Ils adorent parler de leurs émotions, ça aussi, c'est un
ils
super
arrivent à s'ouvrir facilement sur...
Quand ils sont plus jeunes, ouais. Quand ils sont en 6e, 5e, ils ont vraiment envie de participer.
D'accord.
4e, 3e, c'est un peu plus difficile. Mais 6e, 5e, ça marche bien.
Et la relation au papier ? Parce que, tu l'as dit juste en introduction, c'est quand même marrant, parce que dans l'informatique, à chaque fois qu'on parle d'informatique, on se dit « Ok, on est derrière un ordinateur. » Et il y a plein de moments, même nous, au sein de l'agence, quand on arrive chez un client, on sort un papier, un crayon, et ils nous regardent et ils disent... Mais vous n'avez pas un ordinateur, on va discuter, donc nous on va noter sur un papier. Et vraiment, ils nous regardent comme des ovnis en disant, mais en fait, vous êtes dans l'informatique, pourquoi vous avez du papier ?
Est-ce
que du coup, ces jeunes, ces collégiens, c'est pareil, ils vous regardent en disant, mais pourquoi est-ce qu'on...
Non, on n'a pas vraiment ce genre de retour, mais c'est vrai, je partage complètement ce que tu expliques là, c'est que souvent, en fait, on oppose les deux mondes. Et c'est problématique. On parle beaucoup même dans tous les termes qu'on utilise, enfin, de dématérialisation, alors qu'en fait, y a des choses très matérielles derrière ça. On oppose la vie réelle, enfin, in real life, comme on dit, à la vie en ligne. Comme si, et justement, c'est problématique parce qu'on a tendance à penser, du coup, que ce qui se passe en ligne serait moins important que ce qui se passe dans la vraie vie. On utilise vraie vie quand même. Alors que c'est aussi une vraie vie en ligne. Et donc le travail, enfin, justement, c'est aussi pour ça qu'on propose ce magazine papier, c'est pour montrer. Alors, les deux mondes ne s'opposent pas, ils vont ensemble.
Tout à fait.
Ils se poursuivent. Une chose qui commence souvent le harcèlement, par exemple, en classe, car un des sujets aussi qu'on aborde au travers de nos cartes, c'est d'abord du harcèlement qui devient du cyberharcèlement, qui est une extension en fait de ce qui se passe déjà dans la classe. Et donc souvent, il faut aussi, pour résoudre des problématiques de cyberharcèlement, aller voir ce qui se passe dans la classe. WhatsApp étant le lieu parfait du cyberharcèlement, et qui souvent, en fait, il y a maintenant dans les classes de collège, il y a le groupe de la classe. Et alors là, c'est la catastrophe. Souvent, ce que j'entends, le groupe, il crée un groupe WhatsApp, le groupe de la classe. Et donc, dessus, tu peux avoir plein de messages horribles. Enfin, ils se lâchent complètement. Et parce que peut-être ça manque de modération, parce qu'il n'y a pas quelqu'un, un adulte, qui est là aussi pour. Alors que dans la classe, il y a un prof, il y a. Voilà. Et la question se pose après de moi, je ne suis pas dans le groupe de la classe, ou bien tu y vas, et puis là, tu peux être victime de harcèlement. Enfin, je l'ai vu aussi dans mon entourage, des messages horribles sur WhatsApp. C'est le premier lieu du harcèlement.
Et ces groupes qui sont créés, c'est des groupes du coup à l'initiative de collégiens de la classe.
Ouais.
Ou c'est l'école qui.
Pas du tout. Non, pas du tout. C'est vraiment lié. C'est les jeunes. En fait, WhatsApp est un réseau social. C'est un réseau social déjà. Donc ça, c'est aussi hyper important de le dire.
C'est ça qu'on oublie.
On oublie. On pense que c'est juste. On oublie la dimension réseau social, alors que c'est vraiment c'est le cas, c'est vraiment ça. Et ça, du coup, comme il n'y a pas cette conscience-là, peut-être même chez les parents, très tôt, les enfants vont aller sur WhatsApp parce que c'est le groupe famille. Ils rentrent dans le groupe famille, alors les parents sont super contents, etc. Et puis, du coup, l'enfant, il est sur WhatsApp. Et puis après, arrive le collège et les groupes de classe. Quoi. Mais c'est à l'initiative des élèves,
Du coup, c'est bien que tu parles des parents, parce que là, on a beaucoup parlé des collégiens, notamment un petit peu des lycéens, et tout à l'heure, tu as un peu introduit le fait que le Chute Magazine, finalement, a commencé avec les parents, et j'ai l'impression que vous passez plus de temps avec les plus jeunes, sauf qu'on sait qu'aujourd'hui, dans l'éducation, au numérique, les parents doivent être également éduqués par rapport à ça. Du coup, comment est-ce que vous... est-ce que les enjeux du coup par rapport à ces deux types de populations, vous les adressez de la même manière? Comment vous gérez un petit peu la différence entre s'adresser à un parent et l'éduquer au numérique vis-à-vis de plus jeunes qui n'ont forcément pas les mêmes problématiques de vie, mais par contre il y a quand même cette relation à maintenir?
Alors, ce qui est intéressant, c'est de travailler la parentalité numérique.
D'accord.
En fait, alors nous, ce qu'on a fait, c'est des ateliers justement où on invite parents et enfants. Et donc, ils vont faire notre atelier aussi. Les parents, ils adorent. Généralement, ils découvrent plein de choses. Et le fait de partager ses usages avec son enfant et inversement, ça permet de comprendre plein de choses déjà, d'arrêter de se dire que l'écran fait écran à la relation, mais de rentrer dans le dialogue. Et c'est un premier pas pour avancer en termes de parentalité numérique, exercer sa parentalité numérique. En fait, ça se travaille, quoi. Et c'est vrai que souvent, les parents peuvent se sentir un peu dépassés par tout ça. Enfin, nous-mêmes, oui, effectivement, on n'a pas reçu d'éducation au numérique. Et donc, on se retrouve un peu, je parle en tant que parent aussi, un peu dépassé parce qu'en fait, il y a une forme de pression sociale qui s'exerce sur les parents. Quand les enfants, commence à être tous équipés d'un téléphone portable. Si toi, en tant que parent, tu veux pas, tu exclus aussi ton enfant des autres. C'est pas évident aujourd'hui parce qu'il y a une majorité. Et donc, toi, les parents qui veulent pas se retrouvent un petit peu à côté. Pourquoi je disais ça? Le fait est que voilà, les parents se retrouvent avec des enfants qui ont des téléphones à la maison. Ils ont accepté un peu parce que pression sociale et qu'ils trouvent une bonne excuse en disant « Oui, mais bon, c'est l'autonomie, maintenant ils rentrent tout seuls du collège. » Ils se donnent une bonne excuse quelque part. Et en fait, après, bah, voilà, les réseaux sociaux, etc. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Et puis, des disputes. Toujours mon enfant est en train de scroller. L'idée aussi selon laquelle les enfants feraient que des trucs pas intéressants en ligne. Ça accentue ce cliché de l'ado écervelé qui serait là à scroller sur TikTok et à faire que des trucs.
Un cliché qui persiste de génération en génération.
Voilà. Oui. C'est le cliché du jeune, voilà, du jeune idiot. Et ça alimente ça, en fait. Et donc, ça crée, bah, ce que je disais tout à l'heure, ça fait écran. C'est-à-dire, on est là à se disputer avec les enfants. Alors, il y a maintenant, heureusement, des contrôles parentaux qui existent, des applications qui permettent qui nous accompagnent, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi adresser tous ces enjeux-là aux parents, et c'est encore assez nouveau, je pense. La parentalité numérique, il manque encore de choses. Il y a tout à construire, quoi, selon moi. Après, je sais pas, peut-être que vous voyez d'autres choses, mais c'est, nous, on se dit en tout cas qu'il y a vraiment quelque chose à faire aujourd'hui, où il faut réunir les deux, en fait. Il faut faire en sorte de créer du dialogue là-dessus. Pour lever certaines barrières, pour se rendre compte qu'en fait, oui, bon, certainement, ils vont aussi sur TikTok et tout, mais ils font aussi des choses très créatives. Il y a plein de créateurs et de créatrices de contenu aujourd'hui qui font un travail formidable d'information, qui les rendent accessibles parce qu'il y a de la pédagogie. Enfin, ça peut être un peu plus sympa que d'écouter un prof, de rester pendant une heure, voilà, en classe, parce que c'est bien fait, parce que c'est dans l'air du temps et qu'on apprend plein de choses aussi comme ça. Donc, c'est aussi à nous de montrer toutes ces belles ressources qui existent, de les mettre en avant. Et voilà, pour moi, il y a un vrai enjeu, en tout cas aujourd'hui, autour de la parentalité numérique.
Et typiquement, Jennifer, toi par exemple, si tu te disais tout à l'heure que tu avais deux enfants, tu rencontres les mêmes problématiques avec les mêmes, sur les mêmes sujets? Il n'y a pas de...
Bah oui, bien sûr, évidemment. Alors après, je triche un peu parce que c'est mon travail.
Oui, mais alors on sait que parfois les coordonnées sont les plus mal chaussées.
Mais bon, exactement, comme tout le monde, je vis exactement la même chose que tout le monde. On s'est rendu compte qu'il y avait un enjeu là, à la fin juste avant les années 2020, parce que la mise en place du RGPD en 2018 a changé des choses pour les mineurs, dans la mesure où l'article 8 consacre des droits numériques aux mineurs. Et donc on a mené des travaux à la CNIL pour comprendre, pour voir un petit peu comment les enfants pourraient être informés de leurs droits et comment ils pourraient les exercer. Comment les entreprises qui proposent des services numériques pourront se mettre en conformité par rapport aux mineurs. Et donc on a mené un certain nombre d'actions de recherche et on s'est rendu compte avant 2020 que les enfants étaient très connectés sur Internet, à l'abri du regard de leurs parents, parce que les enfants nous expliquaient qu'ils étaient présents en interaction sur Internet, alors que les parents nous expliquaient « Ah non !» Moi, mon enfant, il n'est pas vraiment sur Internet. Donc, on a vu qu'il y avait un fossé entre les perceptions et les actions. C'est pour ça qu'on a commencé par créer des ressources un petit peu en urgence, en réalité. Enfin, c'était pour nous le plus important, c'est de commencer à informer les enfants dès l'âge de 8 ans, justement. Donc, on a toute une campagne qui s'appelle « Tous en prudence » sur Internet, qui permet d'informer les enfants à partir du niveau CE2 jusqu'au CM2, avec des dessins animés, un jeu de cartes, un livret pour les enseignants, un livret pour les parents. Dans le livret pour les parents, on a mis des amorces de sujets de discussion parce qu'effectivement, c'est plutôt un sujet de discorde que de concorde. Et on reste sur la question du temps d'écran, mais on demande jamais aux enfants ce qu'ils font en ligne. Or, ils apprennent aussi des choses. Et donc, comme il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'information. Et pour nous, ça semblait important d'essayer de créer du lien pour créer des espaces d'information. On s'est rendu compte aussi que le sujet n'était pas abordé non plus en classe, pour des raisons matérielles et de temps, et d'information des enseignants. Donc c'est pour ça qu'on a aussi créé des ressources pour les enseignants, pour créer cette forme de continuum éducatif, en réalité, sur la question du numérique, qui n'existe pas. Il y a un défaut d'information général, en fait, sur le numérique, à tous les niveaux de la population. Et donc, on a commencé par les enfants, les primaires, et puis ensuite, on a continué avec les adolescents, raison pour laquelle on a travaillé avec Chute sur l'océan des données, la carte, et un livret aussi pour accompagner les parents et les enseignants. Et puis, on vient de publier un manga qui s'adresse directement aux adolescents, sur un médium qu'ils connaissent bien, et des thématiques qui sont celles de leur quotidien.
Ouais, que vous venez de sortir il y a quelques semaines, donc par rapport à la date du podcast, j'ai vu que c'était, c'était mi-juin, enfin, faut que je le lise, c'est un manga. Et donc par rapport à tout ça, en fait on se rend compte que la CNIL, et en plus tu parlais d'EducNUM, donc juste déjà pour bien resituer, quelle est la relation entre la CNIL et EducNUM? Est-ce que EducNUM c'est une initiative de la CNIL ou c'est plutôt une autre entité c'est quoi la relation entre les deux?
En fait, EducNUM c'est une initiative de quelques acteurs du numérique dont la CNIL.
D'accord.
Et la CNIL a aidé à structurer en fait ce collectif, mais c'est un collectif qui n'est pas du tout c'est un collectif qui est indépendant de la CNIL en réalité.
D'accord. OK.
Ça mais qui est sur les questions d'éducation numérique et avec des entités qui partagent les mêmes valeurs et la même vision de l'éducation numérique justement.
Et là en fait t'as listé plein de choses que vous faites à la CNIL. Moi j'avoue que personnellement quand j'ai découvert ce que tu réalisais en termes de travail, moi en tant que professionnel, la CNIL je le connais en termes de conformité, en termes d'obligations juridiques, mais je ne connaissais pas du tout toutes les actions que vous réalisez. Mais toi, tes missions, donc concrètement, c'est quoi? Enfin, est-ce que tu peux nous donner un petit peu le...
Eh bien, donc, production des ressources pédagogiques.
D'accord.
Mais les ressources pédagogiques, elles s'adressent aux enfants comme aux adultes, comme aux seniors. Diffusion, stratégie de diffusion et diffusion des ressources. Intervention dans les classes, dans, là, par exemple, là, sur un podcast. Donc, intervention, sensibilisation. Et puis, voilà, c'est ça mon travail en fait. Et en fait, la mission d'information de la CNIL, elle est pas forcément très connue, mais pourtant, même pour les entrepreneurs, bien sûr, il y a la loi, la législation, mais c'est important quand on est entrepreneur de comprendre le contexte en fait. Pourquoi est-ce qu'il faut respecter la loi? La loi, elle n'est pas arrivée comme ça par hasard. Elle est là parce que c'est lié à l'histoire de la France, à l'histoire mondiale, c'est lié aux enjeux de citoyenneté, de liberté en fait des citoyens. La loi, elle est là pour protéger les libertés des citoyens. Et les entrepreneurs ont une responsabilité légale, mais morale aussi. Quand ils collectent des données personnelles, ils ont une responsabilité de faire en sorte qu'elles ne vont pas partir dans la nature et qu'elles ne vont pas servir des intérêts malveillants. Mmh. C'est pas un petit sujet, en réalité.
Et du coup, c'est de cette logique-là que, tout à l'heure, tu disais que finalement, les sujets d'éducation, en fait, depuis la création de la CNIL, en fait, c'est quelque chose que vous avez, depuis le départ, intégré. Qui finalement, je pense que c'est quelque chose qui s'est développé à travers le temps et que vous avez renforcé de plus en plus. Et en gros, la place entre les obligations de conformité, etc., au sein de la CNIL, du coup, cette notion d'éducation, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez de plus en plus et vous renforcez en fait votre présence là-dessus.
On renforce, tout à fait. En fait, on vient de créer un service de sensibilisation des publics qui n'existait pas avant, en effet, qui est dans la direction des relations avec les publics, puisque dans cette direction, on est la porte d'entrée de la CNIL, c'est-à-dire que les gens nous appellent tous les jours, donc on a une plateforme de réception des appels. On a des collègues qui répondent au téléphone tous les jours pour des questions diverses et variées liées aux données personnelles et à la vie privée. On récupère aussi les courriers, les demandes écrites. Donc on est la porte d'entrée et nous, sur le service sensibilisation, on va vers les publics. On est en fait le dernier kilomètre finalement qui va transmettre la doctrine aux différents publics.
Et quand tu dis ces gens, ça peut être à la fois des professionnels mais également des particuliers.
Oui, tout à fait.
Vous avez un peu de...
Mais à la CNIL, on est 290 et les deux tiers de l'effectif sont sur la conformité. Plus des deux tiers de l'effectif sont sur la conformité. Donc la mission régalienne, elle reste la mission liée à la conformité, au traitement des plaintes et au contrôle. Mais nous, notre direction, elle a un vrai enjeu de parler avec les publics.
Et donc vous êtes formé à parler des publics, à les sensibiliser, ça fait partie de toutes les personnes qui travaillent à la CNIL quand ils sont amenés à discuter et à échanger.
Dans notre direction, bien sûr.
Et je me retourne vers toi, Clémence. Est-ce que du coup, c'est des choses, enfin, vous êtes amenés à discuter un peu avec la CNIL par rapport aux enjeux auxquels vous êtes confrontés?
Alors, nous, je me dis que peut-être qu'on devrait faire plus de sensibiliser les entrepreneurs qui sont accompagnés à ces enjeux, enfin qui à ces enjeux-là de la donnée en fait, voilà. On l'a fait. Enfin, je ne l'ai pas trop dit tout à l'heure, mais une de nos grosses missions, qui est l'accompagnement des entrepreneurs. Et moi, ma mission principale, ça va être plutôt de la sensibilisation, de l'événementiel, etc. On a fait des choses avec des professionnels du RGPD, etc., pour essayer de sensibiliser les entreprises du territoire à ces enjeux-là. Mais je pense qu'il faut le faire régulièrement parce que je pense que sur le sujet du RGPD, j'ai l'impression que les gens s'en saisissent de temps en temps, mais qu'il n'y a pas vraiment de continuité dans l'appropriation de ce sujet. Donc je me dis que ce serait bien qu'on le fasse plus régulièrement aussi, donc ça me donne des idées.
On vous mettra en relation pour pouvoir aussi en discuter. Tu parlais de sensibilisation, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de qu'est-ce que vous faites en termes, lié à l'éducation au numérique, notamment par rapport aux entrepreneurs, et sur la question de la sensibilisation, quelles sont les actions que vous mettez en place, qu'est-ce que vous faites?
Oui, donc on fait pas mal de choses sur ce sujet-là, moi c'est vraiment ma mission. Il y a deux grands axes, on va dire. Il y a des gros événements qu'on fait chaque année, je vais en citer quelques-uns. Par exemple, là, à venir au mois de juillet, donc ce sera passé quand le podcast sortira, mais on fait les AI Days, donc c'est une journée et demie de conférences, tables rondes, démos sur le sujet de l'IA, comme son nom l'indique. Et là, c'est vraiment la mission de sensibiliser les entreprises du territoire aux pratiques, comment ils pourraient intégrer de l'IA dans leurs entreprises sur des sujets très variés, mais aussi de sensibiliser aux enjeux qui entourent ces usages, donc des enjeux éthiques, d'écologie, etc., parce que c'est important pour nous de parler aussi des enjeux qui entourent l'usage de l'IA, par exemple. On fait des choses sur le numérique responsable avec un événement qui s'appelle Impact Day. Là, c'est vraiment parler de ce qu'on ne voit pas, mais qui est pourtant présent. C'est le côté matérialité dont vous parliez tout à l'heure. On a décidé de lancer un événement là-dessus qui fonctionne bien, qui revient tous les ans. Et puis le dernier dont moi je m'occupe particulièrement, c'est Famille Numérique. Donc c'est un événement annuel qui a lieu à Quimper au mois de novembre. Et là, c'est de la sensibilisation pour favoriser la place des femmes dans les métiers de la tech, parce qu'elles sont peu nombreuses, et notamment sur les métiers vraiment techniques. Donc il y a un enjeu de sensibilisation sur ce sujet. Et le levier principal qu'on a sur Famille Numérique, c'est le levier de la reconversion professionnelle. Donc nous, on s'adresse particulièrement à cette cible-là. C'est un événement qu'on co-organise notamment avec une école et puis avec la CCI. Donc ça a du sens de faire travailler ces acteurs sur ces sujets. Donc c'est la sensibilisation sur ces gros événements. Et puis c'est aussi tout au long de l'année, puisque donc la French Tech a des lieux totems dans les trois villes qui portent le projet, donc à Quimper, à Brest et à Lannion, dans lesquels on organise régulièrement des ateliers de sensibilisation, des tables rondes sur des sujets très variés. Moi, c'est beaucoup sur les sujets du numérique, donc la cybersécurité, l'IA beaucoup. Ça devrait être un peu plus sur les sujets d'RGPD peut-être. on fait des choses très variées pour des publics variés également. Donc ça va être des porteurs de projets, entrepreneurs. Ça peut être des personnes qui travaillent en entreprise sur le territoire. Et on fait aussi des choses pour des publics un peu plus éloignés des thématiques de l'entrepreneuriat ou du numérique, avec des missions de la French Tech au niveau national. Et puis, chaque année, moi, j'anime une session lors du Digital Inspirationnel, qui est un événement qui a lieu à Quimper chaque année. On réunit 500 étudiants à peu près, et on leur présente des métiers du numérique. Pour le coup, c'est des publics très variés, de milieux très variés, et c'est intéressant de leur permettre de connaître la diversité des métiers qui existent dans le numérique, parce que c'est vraiment très large. La sensibilisation, ça passe par plein d'actions. C'est un peu mon quotidien auprès de publics très variés. pas que les jeunes, mais tout le monde.
Et toi qui, du coup, finalement, on est plutôt sur une... Si on parlait, on a beaucoup parlé de jeunes, là, on parle plus de parents, finalement. Enfin, en termes d'âge, en tout cas. D'adultes. Et toi, tu as eu l'occasion de travailler à la fois dans des grandes villes. Il me semble à Nantes, peut-être Paris.
À Nantes.
Non, juste à Nantes. Aujourd'hui, je travaille à Quimper, mais en relation avec Brest et les autres French Tech. Comment... est-ce que tu as identifié des spécificités territoriaux, du coup, en termes d'usage du numérique, d'appétence au numérique, entre du coup des grandes villes type du coup Nantes, peut-être Brest, et des personnes un peu plus du coup un peu plus dans les terres ou dans des villes moyennes type Quimper.
Ouais, c'est vrai. Donc moi j'étais à Nantes juste avant d'arriver à Quimper, qui est vraiment une plus grosse ville. C'est là que j'ai commencé à connaître l'univers des French Tech. J'ai côtoyé la French Tech de Nantes dans le cadre de mon ancien boulot notamment et de mes études. Et donc c'était une communauté hyper active. Je trouvais ça impressionnant de réussir à fédérer autant de monde autour de ces sujets. Et quand je suis arrivée à Quimper, j'étais agréablement surprise de voir qu'il y avait aussi cette initiative-là sur un plus petit territoire. Donc déjà c'est chouette que ça puisse exister et je pense que c'est assez important. Et oui, il y a des différences. Je pense que dans des grosses métropoles type Nantes, Paris évidemment, ça va plus vite l'appropriation des sujets. Je pense qu'il y a un effet de rebond, ça arrive un peu plus tardivement chez nous. Donc nous, notre mission, c'est d'essayer de suivre les sujets d'actualité, de les proposer sur le territoire. Ça marche pas toujours. Parfois, il y a un peu moins de... les gens se les approprient un peu moins ou alors ça leur paraît peut-être un peu éloigné de leur quotidien. En ce moment, le contexte est un peu tendu dans les entreprises. Donc on sent que certains ont un peu plus de mal à s'intéresser à des sujets très tech, alors qu'ils ont des enjeux très concrets de faire rentrer de l'argent dans leurs entreprises. Mais nous, on veut quand même continuer cette mission-là de sensibilisation parce que ça sert toujours à quelqu'un et à quelques-uns. Et donc c'est important que ça continue. Oui, il y a un peu un décalage, mais voilà, on essaie quand même d'amener les sujets, d'être à la page, comme on peut. On teste des choses. Alors, les AI Days dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un événement qui est à Brest, qui réunit, on aura cette année à peu près 400 personnes sur place, donc c'est déjà vraiment très bien pour la pointe bretonne, déjà de venir à Brest, même à Quimper, on passe jamais par ces territoires-là, on y est, on y vient, et voilà, donc c'est bien de réussir à amener ces sujets-là chez nous aussi, quoi.
Et je voudrais du coup sur le sujet du rebond, notamment je me tourne vers toi Sophie, vers toi Jennifer. Vous qui avez aussi l'habitude d'aller sur différents types de territoires, on parlait de Toulouse tout à l'heure, on a parlé de Dijon, enfin, il y a plein de villes de différentes tailles. Est-ce que cette notion de rebond, vous le ressentez aussi quand vous allez dans des collèges, quand vous rencontrez des parents? Est-ce que vous voyez aussi cet effet de rebond entre des grandes villes type Paris? Bon, Paris, c'est vraiment la grosse métropole tentaculaire, mais après, il y a d'autres grandes villes comme Lyon, comme Nantes et autres. Est-ce que vous le ressentez aussi et du coup, vous adaptez la manière dont vous amenez les actions au coup de terrain?
Tu vas
J'y vais faire.
Écoute, là, c'est peut-être une année exceptionnelle un peu pour nous parce que là, sur le premier semestre de l'année, on a vu physiquement, en présence ou à distance, 10 000 personnes sur l'ensemble du territoire national. On se déplace beaucoup, partout. Et alors, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une notion d'égalité partout. Le truc, c'est qu'il y a un défaut d'information qui est le même partout.
En fait. D'accord.
Oui, il y a un défaut d'information qui est complètement général. Et en fait, on s'est rendu compte aussi quand on a mené des travaux sur le numérique adolescent, on a fait un sondage auprès des parents. Ce qui permet aux parents d'accompagner leurs enfants ou pas, c'est leur niveau d'information et de disponibilité. Il faut pouvoir réunir ces deux critères-là pour avoir des enfants qui sont accompagnés sur le numérique. Et ça nous donne un nombre d'enfants qui est infime en réalité, parce que le numérique c'est un sujet technique. Et parce que quand on parle de parentalité numérique, en réalité on va sur des sujets d'intimité, d'éducation qui sont propres à chaque famille. Et donc On essaye d'organiser des événements, notamment dans les classes, en fin de journée, des kermesses, des moments un peu plus conviviaux, sympathiques. C'est très difficile de mobiliser les parents, les faire venir. Très difficile. Personne, aujourd'hui, personne n'arrive à parler à tous les parents.
Ils n'arrivent pas à parler à tous les parents, mais pourtant, enfin, typiquement, toi Jennifer et toi Sophie, vous êtes tous les deux parents, toutes les deux parents. Mmh. C'est des sujets qui, du coup, vous êtes, enfin, vous le vivez au quotidien et vous travaillez sur ces enjeux d'éducation numérique. Et pourtant, on sait que, enfin, vous le dites vous-même, c'est pas facile. D'autres parents, bah, le vivent eux-mêmes, mais pourtant, il y a quand même, enfin, ils vont pas vouloir essayer de se déplacer.
Non, mais il y a un vrai enjeu de disponibilité. Les ouais. parents sont débordés pour plein de raisons différentes. Ils sont saturés d'informations. Le numérique vient en plus de tous les autres
c'est
sujets.
C'est vraiment la brique qui arrive par-dessus.
Donc mobiliser juste sur ce sujet-là, c'est pour ça que le support linéaire papier, il est en fait il est très fin, il est très fort parce que le papier, on peut l'avoir quelque part et le lire quand on est à dispo. Et ça peut être n'importe quoi.
C'est vrai aussi que les parents ont beaucoup de mal. Il y a des actions qui sont réalisées dans les collèges, dans les établissements scolaires. Et faire venir des parents après les cours dans un établissement scolaire, clairement, ça ne marche pas.
Ouais.
Parce qu'il y en a pour partie de parents qui ont peut-être un mauvais souvenir du collège, qui n'ont pas envie. Les parents ne viennent pas au collège. Ils viennent à l'école primaire, mais ils ne viennent pas au collège. Donc on ne peut pas les trouver là. Donc il faut trouver, c'est toute une réflexion qui mérite encore vraiment beaucoup d'être approfondie, mais où les trouver ? Où, à quel moment, effectivement, en termes de disponibilité, et où aussi les convier ? Donc il y a des événements qui existent, qui vont, par exemple, tourner autour du jeu vidéo. Là, on arrive facilement à faire venir parents et enfants. On arrive à faire venir les enfants, et donc les parents les accompagnent. Et là, ça peut être une bonne occasion de leur parler aussi de ces sujets-là. C'est vrai que c'est effectivement une charge en plus. Et puis peut-être aussi que le souci, c'est encore ce cliché du numérique vu comme un sujet technique, justement. Et très souvent, en fait, encore dans notre société aujourd'hui, on se dit « Moi, tu me parles de numérique, mais j'y connais rien. Tu te censures toi-même. » Alors qu'en fait, on a tous et toutes des téléphones dans la main. On est tous et toutes concernés. On va se dire donc en fait effectivement c'est vrai que c'est pas mal quand on amène ce sujet, mais malheureusement c'est aussi beaucoup vu de façon anxiogène
qui vient se rajouter.
Oui, c'est un sujet de plus à traiter.
Et puis on le voit sur les publics, les seniors, les papinis, en fait eux, leur approche du numérique, ils nous apprennent beaucoup parce que leur approche du numérique c'est un angle escroquerie, arnaque uniquement.
D'accord. Ah oui, c'est vraiment comme ça qu'on voit par rapport à cette tranche d'âge.
Donc, ça nous apporte aussi un autre regard parce qu'en fait, ils sont appelés en permanence, parce qu'ils cliquent sur un lien dans un email qu'ils ont reçu et c'est l'escalade des problèmes. Donc, il y a aussi, tu vois, cette... cet angle qui effectivement amène un recul par rapport au sujet.
Et là, quand on parle de... C'est un sujet anxiogène, est-ce que, enfin, on n'a pas un peu une peur qu'on ait des... Enfin, que l'éducation numérique est un élément qu'on rajoute, en plus dans un contexte où c'est très compliqué. Enfin, le travail de fond, du coup, doit être encore plus dur sur le terrain.
C'est à nous d'adapter les messages et d'aller là où les gens sont et d'avoir des messages plutôt sympathiques et qui apportent un peu de joie, de bonne humeur parce que ça reste une opportunité quand même de pouvoir accéder à des vidéos, des photos pour échanger avec les autres donc gardons d'internet et du numérique cette opportunité et essayons d'effacer, enfin en tout cas de se protéger, d'apprendre à se protéger de ce qui peut arriver dans le moment sympa.
C'est vrai que les médias véhiculent beaucoup ce côté anxiogène. Les écrans, enfin, c'est vraiment un sujet qui crispe beaucoup et les médias relaient beaucoup ça. Donc nous, on le présente plutôt de façon... l'idée, c'est de s'émanciper par le numérique aussi. Et ça, c'est encore pas très, très diffusé comme idée. C'est ce qu'on essaye de faire avec Chute quand tu parles de... Voilà, on fait des magazines colorés, plutôt joyeux. Ça ne nous empêche pas de pointer les dérives et les choses qui ne vont pas. Hein. Mais d'essayer de montrer autre chose que ce qu'on voit tout le temps. Et malheureusement, c'est vrai que ce n'est pas tellement ce qu'on entend avec des discours soit technophobes ou tout l'inverse. Mais c'est plutôt aujourd'hui beaucoup de peur. Beaucoup. Et ça, voilà, aujourd'hui, il y a aussi tout un discours actuellement qui parle d'interdiction. Alors récemment, oui, là, c'est interdiction des écrans au moins de 3 ans, oui. Interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans, interdiction des téléphones portables dans les collèges. C'est des annonces là, qui ont été faites. Mais la question de l'éducation, on n'entend pas beaucoup. Évidemment, c'est une question plus complexe quand on parle d'éducation. C'est peut-être facile de parler d'interdiction. Et ça, c'est une... Enfin, on a là... C'est peut-être un peu réactionnaire, quelque part. Enfin, on attend ça pour se dire, enfin, oui, on trouve des solutions. En fait, c'est pas du tout suffisant. Il faut absolument accompagner... Peut-être qu'il faut interdire. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Mais derrière, il faut amener de l'accompagnement, du savoir, de la connaissance. Parce que si on interdit des réseaux sociaux au moins de 15 ans, pourquoi pas? Mais après 15 ans, ça ne va pas changer le problème, en fait. On va se retrouver avec les mêmes, le même fonctionnement de scroll, voilà, des vidéos TikTok qui poussent à la dépression. Enfin, ça ne va pas changer. Et on peut aussi bien retomber dans les mêmes travers qu'on a 12 ans que 15. Donc, s'il n'y a pas l'éducation derrière, c'est vraiment trop faible comme action.
Mais ce que tu pointes là, l'accompagnement et l'éducation numérique avec un accompagnement humain, c'est justement miser sur l'humain. Donc, c'est un choix politique en réalité de décider qu'on va dédier des heures d'accompagnement, de médiation auprès des enfants pour les éduquer. Donc ça pourrait être un levier non négligeable. Miser sur l'humain. Et puis, il y a aussi un levier avec les entrepreneurs qui pourraient être très transparents sur la façon dont ils travaillent sur leurs données et leur philosophie, leurs valeurs. En fait, ce qu'on voit aussi auprès des publics et des publics adultes, c'est qu'il y a un besoin de transparence parce que les gens sont prêts à faire confiance si on leur explique les choses. Donc, il y a un vrai levier sans nul doute.
Parce que clairement, l'interdiction ne permet pas l'éducation. C'est deux choses qui sont généralement opposées. C'est souvent une solution simplissime face à une solution qui demande beaucoup plus de réflexion.
Et de moyens.
Et puis on peut dire que sans nul doute, les jeunes auront des stratégies de contournement qui seront beaucoup plus développées que nous sommes capables de l'imaginer. Voilà.
Ils contournent déjà...
On ne connaît pas une interdiction où on n'a pas à chaque fois une solution de contournement. Il n'existe aucune interdiction et sur n'importe quel sujet, ça n'existe pas. Mais du coup, si on résume un peu tout ça, on se dit que l'éducation, clairement, c'est un sujet de toute façon de longue haleine qui prend du temps. Comme on l'a dit, c'est qu'il faut réussir à apporter de la positivité dans un monde de plus en plus anxiogène sur des sujets qui en rajoutent.
Et on parle des débats, et créer de la discussion,
et créer la communication.
Et pas la polarisation de c'est oui, c'est non, c'est. Maintenant, on apprend à débattre, on discute, et c'est en discutant qu'on va trouver des solutions, qu'on va faire avancer le sujet. Nous tous, en fait.
Ça me fait penser, avec l'essor de l'IA qu'on vit là depuis quelques temps, il y a eu cet effet de peur qui était très 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 présente en fait, parce que ça transforme les emplois, qu'est-ce qu'on va devenir, je vais perdre mon emploi ou alors mes missions seront complètement changées, les entrepreneurs aussi ça pose question, et donc c'est là où il faut continuer le travail de sensibiliser, de parler tes sujets pour éviter que ce soit une crispation et que ce soit bloquant quoi. Il vaut mieux en parler, je pense, continuer tous les travaux de sensibilisation qu'on fait.
Oui, c'est un travail à réussir à maintenir et après de compter sur les moyens qui sont mis à disposition et c'est souvent ce qui contraint tout ça. Je vous propose qu'on passe sur la rubrique suivante, le CTRL-Z. CTRL-Z, c'est, on va parler d'une anecdote, une histoire, généralement un fail, donc quelque chose qui n'a pas fonctionné, et la solution que vous avez mis en place pour réussir à contourner le problème. Qu'est-ce que vous avez fait? Ou alors peut-être des solutions que vous avez envisagées. Et est-ce que vous avez des anecdotes, des histoires à raconter par rapport à ces enjeux d'éducation numérique, peut-être des sujets terrain? Tu te lances?
Je peux y aller. Donc moi je pense à une action qui est portée au niveau national par la French Tech qui s'appelle French Tech Tremplin. C'est un super programme. L'objectif c'est de favoriser l'entrepreneuriat auprès de publics qui en sont éloignés. Donc c'est un programme qui est accessible sur des critères de résidence, donc pour des personnes qui habitent dans des quartiers prioritaires de la ville ou dans des zones de revitalisation rurale, ou alors sur des critères sociaux. Et donc ce programme permet un accompagnement avec des professionnels pour structurer le projet et puis également des moyens financiers pour pouvoir lancer son projet, ce qui est très utile. Pour créer une entreprise, il faut de l'argent et pas mal, donc c'est un super programme. On porte ce programme-là sur l'ensemble du territoire français. Partout où il y a des French Tech, il existe. Et nous ici, à la pointe bretonne, on a un petit peu du mal à le faire fonctionner parce qu'on n'est pas tout à fait en contact avec ces publics tout au long de l'année. On les contacte de manière très ponctuelle quand on a les appels à candidature. Mais du coup, ils ne connaissent pas nos actions, ils ne savent pas vraiment qui on est, ça ne prend pas. Donc un levier que je n'ai pas encore eu l'opportunité d'activer parce que ça demande du temps, mais ce serait de réussir à créer des liens plus fréquents avec eux, les inviter à nos événements, etc. Parce que c'est aussi un sujet d'amener le numérique partout, pas seulement dans les villes, mais aussi dans les territoires plus ruraux et auprès de publics très variés parce que voilà, il faut que ce soit accessible à toutes et à tous. Donc voilà, ce serait l'idée de pouvoir avoir du lien plus régulier avec ces publics-là, parce que je crois vraiment en l'intérêt de ce programme. Et c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir le mener à bien ici, alors qu'on a, on n'a pas beaucoup de quartiers prioritaires de la ville, à Quimper notamment. Un petit peu plus à Brest. Par contre, des zones de revitalisation rurale, on en a. Des personnes qui touchent le RSA, on en a. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à les toucher. Il faut juste être proche d'eux régulièrement, quoi, je pense.
Et quand tu dis proche d'eux, c'est vraiment physiquement.
Physiquement, c'est ça. Mais là, et puis, en plus, je dis les inviter à nos événements, mais c'est facile quand je réfléchis à ce que je dis. C'est facile de le dire parce que c'est pas évident de se déplacer sur les événements. C'est déjà une démarche de venir. Il y a souvent du monde. C'est pas forcément notre milieu. Donc, ce serait plutôt à nous de se déplacer et puis d'aller présenter nos actions et de dire qu'on est disponible pour les accompagner.
Surtout que tu parlais de disponibilité, mais en fait, même un événement qui peut avoir lieu à 18h, à 19h, 20h, il y a des personnes qui travaillent, qui sont pas forcément disponibles, qui ont des enfants. Il y a tout un contexte qui est compliqué à gérer et c'est tout à chacun. Malgré, c'est pas la non-volonté de la personne. En fait, c'est juste que cette disponibilité, comme tu le dis,
et il faut pouvoir se déplacer, être véhiculé. Enfin voilà, il y a plein de contraintes que nous, moi peut-être dans mon quotidien, je n'identifie pas parce que voilà, mais c'est important de les prendre en compte pour permettre de faire fonctionner ce programme, mais plus largement de permettre à ces personnes d'avoir accès à l'entrepreneuriat et à la tech.
Merci Clémence. Est-ce que l'une d'entre vous a une anecdote, un fail?
Nous, il y a certains ateliers où ça a été plus difficile que d'autres. Et je pense notamment à des ateliers où on a eu plutôt des 4e, 3e.
D'accord.
Et là, pour nous, c'est un public où c'est un peu plus difficile. Autant les 6e, ils sont chouchous, hein. Ils sont super faciles.
On l'a vécu aujourd'hui.
Ils ont envie de participer, ils s'impliquent, ils posent plein de questions. Voilà. Mais les 4e, 3e, alors je ne veux pas non plus les stigmatiser, mais on en a eu certains. Qui avaient tendance à se renfermer complètement sur eux-mêmes, à pas du tout s'intéresser, limite à mettre leur tête dans leurs bras là, comme s'ils dormaient. Ils sont certainement fatigués aussi, hein, mais c'est vrai que c'était plus compliqué d'arriver à les intéresser au sujet, qui pourtant en plus les concerne beaucoup, hein, parce qu'ils utilisent leur téléphone, etc. Mais on n'arrive pas avec des cours de maths, quoi. C'est pas le truc qui est censé être
un peu plus fun, normalement.
Ouais, mais pour autant, ça peut être parfois un peu difficile, ouais. Après, la solution, je l'ai pas, mais peut-être que toi, tu l'as.
Peut-être au tout début, se demander pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, combien de temps on va passer ensemble, quel est le sommet en fait des prochaines minutes pour les aider à les embarquer, peut-être, je sais pas, peut-être, je ne sais pas. Et j'ai pensé à un sujet, quand on a lancé les ressources pour les adolescents, donc on a lancé un marché qui a été gagné par chute sur un des lots. Et en simultané, on a aussi été dans les collèges, discuté avec les enfants. On a mené un peu plus de 100 entretiens en qualitatif avec les adolescents pour leur demander ce qu'ils fabriquaient avec leurs appareils connectés pour connaître leur niveau d'information et savoir ce qu'on allait mettre dans les ressources, quel niveau sur chaque sujet. Et puis, on leur a demandé aussi le format qui les intéressait. Si on doit vous informer sur le numérique, qu'est-ce qui vous intéresse comme sujet ? Le papier n'est jamais venu sur le jeu. Et donc on s'est dit, mais comment on va gérer ? Ils veulent que du numérique. Mais nous, on n'est pas parti sur du numérique, on n'a pas le budget pour du numérique. Et donc on a soumis un dossier à la commission européenne, qui a accepté, et donc on est en train de développer une application qu'on va sortir là sur la fin de l'année, qui va permettre aux adolescents, en tout cas non cibles les adolescents, de protéger leur vie privée, donc tester leur mot de passe, vérifier que dans leur bio, il n'y a pas d'éléments de leur vie privée, pouvoir anonymiser leur photo de profil. Donc,
excellent.
On a rebondi.
C'est vrai que le papier, c'est plus les profs qui sont contents de l'avoir.
Oui.
Ils ont un support qu'ils peuvent distribuer, etc. Mais les jeunes, ils ne vont pas. Ouais,
non,
c'est pas dire,
je veux du papier.
C'est totalement complémentaire, bien sûr. Et puis, on le voit bien là sur les ateliers, en fait, la carte, elle plaît énormément. En plus, on l'anime de manière ludique. Donc, ils aiment beaucoup. Elle a beaucoup de succès, cette carte.
Je vous propose de passer sur la dernière rubrique. Là, c'est la side quest. C'est est-ce que vous avez des contenus à recommander, à aller voir pour les personnes du coup qui écouteraient ce podcast. Donc c'est des liens après que nous on partagera derrière. Et est-ce que du coup, vis-à-vis de ces enjeux d'éducation numérique, que ça soit pour des jeunes mais également pour des parents, est-ce que du coup vous avez des recommandations à fournir ?
Chute média déjà.
C'est une évidence. Mais complètement, oui. Complètement. Chute média et chute. Enfin, du coup, je suis les deux magazines, parce qu'il y a le magazine pour les parents et il y a aussi pour les plus jeunes.
Ouais, exactement. On a un abonnement duo, du
coup.
Parents-enfants.
Ah, trop.
Une pierre de
plomb. Nous, on a un certain nombre de ressources sur notre site, des vidéos, bien sûr, l'océan des données qui est en format carte, en format audio, en format livret pour les enfants 10.
D'accord.
Tout à fait.
Un livret pour les parents, les enseignants, un manga, donc ça c'est pour les adolescents, bientôt une application Fantomap qu'on fait en partenariat avec nos homologues européens. L'application va sortir cette année en France.
Ça sort sur tout le territoire.
Magnifique. Ouais.
Dans tout le territoire européen. Ouais.
On a une infolettre, on communique beaucoup sur LinkedIn, donc des informations par rapport à la conformité, mais pas seulement, des sujets d'information aussi. Donc,
bien
fourni. Et on est à la disposition des publics.
Et toi, Clémence ?
Ressources, déjà, nous, il y a tous les événements qu'on va proposer, donc ça se retrouve sur nos sites internet, etc. Mais plus globalement, sur l'entrepreneuriat numérique, il existe beaucoup de podcasts. Il y en a qui sont très connus, Génération Do It Yourself par exemple, c'est très connu, mais c'est des formats longs qui permettent de parcourir un peu le parcours global de l'entreprise, donc c'est plutôt intéressant. Après moi je m'informe aussi pas mal sur les verticales sur lesquelles je travaille, donc notamment la parité, je me suis notée, on a travaillé l'année dernière lors de Famille Numérique avec le laboratoire de l'égalité qui est à Paris sur le sujet des biais de représentativité dans les IA, c'est aussi un sujet d'éducation qui est hyper important à amener. Ils ont un guide sur de bonnes pratiques sur ce sujet là, donc je trouve que c'est une ressource intéressante, toujours sur ces sujets sujets de diversité. Je pense à Diversity Days aussi, qui fait des contenus intéressants. Voilà. Et puis après, sur les territoires, un bon moyen aussi de s'informer sur les sujets du numérique, etc., c'est les formats de fresques. Pardon, de fresques. les fresques du numérique, il y en a plein en fait, c'est décliné sur plein de sujets, fresques de l'IA, je crois que ça existe aussi. Donc c'est aussi des bonnes ressources, je pense, pour s'informer sur ce sujet-là. Quoi.
Mmh. Voilà. Super intéressant. On récupérera tout ça et on l'enregistrera pour le partager. On conclut ce podcast. Donc déjà merci à toutes les trois d'avoir répondu aux différentes questions. C'était hyper intéressant. J'avais plein d'autres questions, mais on n'a pas assez de temps en une heure et demie pour tout aborder. Est-ce que vous avez quelques actus quand même à partager en ce mois de juin? Des actus.
Moi j'en ai. On vient de sortir notre premier livre qui s'appelle L'Atlas de la Tech.
D'accord.
Donc c'est un livre qui réunit les cartes dont on a parlé là, mais d'autres aussi, qui a un format enrichi, beau livre, donc avec une belle couverture épaisse. Okay. Un livre de 150 pages pour les familles, okay, pour explorer la tech en famille de 7 à 107 ans. Voilà comment on présente le magazine. Enfin, le magazine. Non, c'est pas un magazine. Un livre, voilà. Donc, on a lancé Chute Édition très récemment. On est en train de faire un financement participatif sur Ulule qui sera certainement plus à jour au moment où le podcast sortira. Mais voilà. Et ça sera disponible en librairie à la rentrée. Donc dans toutes les grandes librairies et également dans les relais en gare.
Okay.
Et sur notre site internet.
Sur le site internet, j'avais posé la question.
Ouais.
Okay.
Donc on mise toujours sur le papier. On explore un autre format.
Il faut garder le papier, c'est important. Merci Sophie.
Le tome 1 du manga pour les adolescents, en français, en anglais.
Okay.
Et une ressource pour les médiateurs pour s'emparer de nos sujets en 1, 2, 3 séances, comme on le souhaite, selon les formats à disposition.
Trop bien, j'ai hâte de lire ça aussi. Merci Jennifer.
Alors de mon côté, des actualités, donc j'ai parlé des High Days, mais qui seront passés à la sortie du podcast. Donc l'événement le plus proche, ce sera Femme et Numérique, le 20 novembre à Quimper, donc c'est un jeudi. C'est un événement sur toute la journée. La matinée est consacrée à des tables rondes, des conférences, des pitch métiers aussi pour montrer des parcours de femmes qui travaillent dans la tech, c'est important. Et l'après-midi, on propose plutôt des formats plus longs avec des ateliers pratiques. Il y a des stands avec des entreprises qui recrutent, les partenaires de l'emploi et des associations comme Codawen, par exemple, que vous pourrez retrouver sur l'événement. Ce sera notre prochain événement à la rentrée. Donc n'hésitez pas à venir.
Voilà, merci Clémence. Et en plus, Cool IT sera présent sur cet événement, sur le coup. Comme
ça fait
chaque
quelques années que vous y êtes,
vous êtes fidèles. Sur cet événement, donc merci à toutes.
Merci beaucoup
pour ce sujet extrêmement intéressant et pas assez d'une heure et demie pour parler de plein de choses. On n'a pas parlé de cyberharcèlement, mais il y a tout un sujet en plus là-dessus qu'on aurait pu aborder, et j'avais beaucoup de questions. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est notre deuxième enregistrement, et surtout restez cool.